Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Au départ, ce musicien autodidacte avait choisi de s'appeler Erwan. Clin d'œil à son vrai prénom, avec un point entre les deux mots, mais à l'anglaise. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Il aura suffi que le point soit oublié sur le flyer de son premier live parisien pour que Erwan devienne Rhône. Depuis, le grand timide a fait bien du chemin jusqu'à devenir un incontournable de la scène électro, encensé par la critique, adoubé par les plus grands noms de la French Touch, et même récompensé récemment par un César. Après un Spanish Breakfast, du tohu-bohu et quelques autres créatures, il vient nous présenter son sixième album, Rhône & Friends, disponible sous le label Infiné, et vous m'en direz des nouvelles.
J'ai pas envie de courir derrière le temps que je perds, je préfère prendre mon courage à deux mains et je l'ai étranglé. Étranger, la notion d'étranger. Danger à Los Angeles, le même danger, tout le monde veut le sol, il laisse. Qui veut du soleil et d'Elias? Qui veut du soleil et d'Elias? On est tombé sur la tête pour de la monnaie, les gosses deviennent dérangés. Où est passée l'allégresse dans l'égresse de la danse de se déhancher? C'est pas que je devienne vieux.
Non.
Pas génie comme Aladdin, garde les yeux ouverts à la bœuf. Je suis content quand il pleut, ça énerve les gens heureux. Tout est question de point de vue, vu que l'argent change les gens. J'en déduis que ceux qui tuent, tuent, le nourrit consciemment. Mensonge d'une vie à 400%. Sans, tu crèves la gueule ouverte au soleil comme un goéland. Lent, le poids des jours, le poids du temps, névrosé tralala qui va nous ressaisir. Quand va-t-on arrêter de penser que l'issue n'est qu'une question de plaisir? J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, je vomis du cœur, je suis écœuré. J'ai pas envie de courir derrière le temps que je perds. J'ai préféré prendre mon courage à deux mains et je l'ai étranglé. Étranger, la notion d'étranger. Danger à Los Angeles, le même danger, tout le monde veut le sol, il laisse. Qui veut du soleil et d'Elias? Qui veut du soleil et d'Elias?
J'ai volé.
Bonjour Rhône.
Bonjour.
C'est avec le trio bordelais Odezen que l'on entre dans ce nouvel album. Le morceau s'appelle Solilès, hein, comme cette pièce de viande de volaille que l'on aime pour sa tendreté, pour son goût et qui est considérée comme la meilleure partie du poulet. Petite question d'ailleurs, quel est votre Solilès musical à vous Rhône? Le morceau que vous aimez comme ça, savourer, ressavourer pour sa haute qualité musicale et gustative?
Ah, c'est une question difficile parce qu'il y en a tant, mais c'est vrai que je reviens quand même, j'ai des obsessions quand même. Et là, je pense à un morceau de Brian Eno qui s'appelle Unascent, un morceau très court de musique ambiante, électronique, qui me parle beaucoup.
Ouais, il y a un petit côté Brian Eno aussi dans vos compositions, il n'y a pas de mystère.
Ah, il n'y a pas de mystère, ouais, c'est une influence forte. Ouais.
Alors avec Odezen, on se rend compte tout de suite, hein, que sur cet album, il va y avoir des notes et il va y avoir des mots. Des jeux de notes et des jeux de mots. La dimension ludique, elle reste très très présente dans votre travail de composition?
Ouais, complètement. Moi, j'ai l'impression d'être un gamin. Déjà, bah, le simple fait que je suis un autodidacte. Moi, j'ai pas vraiment pris, j'ai pas de formation classique. Je sais à peine lire une partition de musique. Donc, ça reste quand même du bricolage et en fait plutôt même un jeu. C'est vrai. J'associe des sons, j'essaye de trouver des textures sonores un peu nouvelles en bidouillant mes synthétiseurs. J'ai l'impression d'être un gamin dans la musique.
Oui, et ça a commencé comme ça la nuit pour combattre les insomnies. C'est une légende ça ou c'est vrai?
Non, c'est tout à fait vrai. Ouais, c'est vrai. J'étais un gros insomniaque. Bon, ça, je suis insomniaque depuis que je suis tout petit, mais
bienvenue au club.
Mais ça a des vertus d'être insomniaque. Il se passe plein de choses la nuit en fait. Enfin, je me suis rendu compte de ça justement à un moment donné dans ma chambre de bonne quand j'étais étudiant. À un moment donné, j'ai éteint la télé. Enfin voilà, je me suis dit qu'il fallait peut-être essayer de faire des choses de ces insomnies, de les transformer en quelque chose de constructif, de créatif. Et je me suis mis à faire du son.
On prend les platines, prend les enregistreurs divers et variés et on bidouille, on voit ce que ça donne.
Exactement. C'est ça. J'apprenais tout seul pour le coup. Je pense d'ailleurs que c'est une chose intéressante dans la musique électronique, c'est qu'il n'y a pas encore, enfin, ça commence à venir les écoles pour apprendre à utiliser les outils électroniques, mais ça reste quand même un genre musical où on se construit tout seul de son côté, avec ses propres méthodes de travail. Et donc voilà, pendant des années, c'est vrai, dans ma chambre de bonne, j'ai essayé des choses et ça a créé ma patte, je pense, musicale.
Donc la musique pour meubler les nuits d'insomnie et cet album pour meubler le confinement.
Exactement, c'est vrai. C'est un album qui n'était pas prévu. C'est un album de confiné. Moi, ce qui était prévu normalement avant que ce virus entre dans nos vies, c'était une grande tournée. Il y avait plein de dates annoncées pour l'album Room with a View, le précédent album qui
avec la Horde, hein, le collectif et les ballets de
National de Marseille.
Oui,
c'est un album très. Ben, c'est un peu à l'opposé de celui qui sort là. C'était un album instrumental très épuré parce qu'il a été conçu pour un spectacle de danse. J'étais super content de partir dans ce projet, cette tournée collective avec 18 danseurs sur scène et puis évidemment tout s'est effondré comme un château de cartes. Et badaboum. Et bon, ben voilà, pour pas, je me suis retrouvé comme tout le monde confiné chez moi et j'étais un peu désœuvré. Et de là est parti ce projet de disque collaboratif à distance. Tout s'est fait à distance.
Oui, la question de la collaboration, la question du collectif, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Même en confinement, même isolé chez vous, alors en famille j'imagine, mais quand même, loin des autres, il fallait quand même que ce soit un album de partage.
Ben oui, je dirais même...
À plusieurs.
Plus que jamais en fait, je dirais. Parce que c'est, en fait, moi j'adore la solitude habituellement, je la cherche, j'ai une petite famille que j'aime, j'ai plein d'amis, mais souvent je me sens obligé de m'éloigner d'eux pour composer, donc je... En général, quand je fais un album, moi, je pars tout seul dans une chambre d'hôtel en Bretagne et je cherche la solitude. Mais là, le fait que ce soit une solitude imposée, que j'avais pas demandé, que j'avais pas cherché, enfin voilà, un isolement nécessaire, évidemment, mais le confinement, j'étais pas du tout, au départ, j'avais pas du tout envie de faire de la musique, j'étais pas du tout inspiré. C'est marrant d'ailleurs parce que je me souviens qu'au début du premier confinement, on disait bon ben ça va être l'occasion de faire plein de choses.
Ouais. Alors il y a les deux, hein, parce qu'on a reçu pas mal d'artistes effectivement depuis un peu plus d'un an. Il y a ceux qui ont vu justement une formidable occasion de faire enfin quelque chose tranquillement, dans un état d'esprit un peu différent, une vraie introspection. Hein. On a reçu Gaëtan Roussel il y a pas longtemps qui nous expliquait ça. Et puis il y a ceux qui au contraire avaient tellement l'esprit embouteillé par ce qui se passait qu'ils n'arrivaient pas à créer.
Moi j'étais dans cette situation-là effectivement plutôt. Enfin, en tout cas, créer tout seul, là, ça me tentait pas du tout. Donc, il y a eu quelques jours comme ça, un peu d'abattement, où j'étais un peu abasourdi, à voir mes dates s'annuler petit à petit de cette tournée avec les danseurs. Et puis, à un moment, en fait, c'est parti. Ce disque, il est parti. J'ai retrouvé une démo sur mon ordinateur, une maquette, un morceau inachevé que j'avais fait avec Alain Damasio, le morceau 1 qui est sur l'album. Et je savais, voilà, c'est un morceau qui traînait sur mon ordinateur, je savais pas trop quoi en faire. Et là, je me suis dit, il faut le finir quand même, ce morceau, il a quelque chose. Et en le finissant, en parallèle, j'ai proposé à Yael Naïm de poser sa voix sur une instru, et puis Casper Clausen, et puis tout d'un coup, il y a ce truc qui a pris forme, il y a eu une espèce de recueil de chansons, et je me suis dit qu'il fallait en faire un album. Have you ever swam so far enough to breathe? Swim in the ocean, kicking my feet in waves of devotion.
Devotion, extrait du nouvel album de Rhône, notre invité aujourd'hui dans VMDN sur RFI. Et cette voix, c'est celle de Georgia. Pourquoi Georgia?
Giorgia, alors il faut que j'avoue, c'est le seul mariage arrangé de cet album.
Oula, c'est quoi un mariage arrangé?
C'est-à-dire que tous les autres artistes sont des amis ou des connaissances ou des gens que j'ai contactés. Et là, c'est mon manager qui m'a dit « faut que t'écoutes une artiste qui a une voix incroyable ». Et en général, moi je fuis ça comme la peste parce que ça m'était déjà arrivé ce genre de situation. Et c'est un peu comme, vous savez, quand on présente à un célibataire quelqu'un en disant « ça va matcher, ça va marcher, il va se passer ». Et puis en général, il y a une espèce de malaise. ça ne marche pas parce que ça manque de spontanéité. Mais là, là en l'occurrence... En fait, j'ai été épaté par cette fille, par sa voix, le personnage, et puis elle a une dimension pop, que elle a emmené ma musique électronique dans une dimension pop, dans une sphère pop, ça m'intéressait beaucoup.
Alors l'album s'appelle Ron and Friends, ça veut dire que, mis à part Giorgia, tous les compagnons d'aventure sont des amis de longue date.
Oui, alors Giorgia est devenue une amie. Hein,
depuis... Maintenant, ça y est, elle fait partie de la bande.
Ah bah oui, mais non, mais disons que bon, il y a différents degrés d'amitié. C'est vrai qu'il y a les vieux amis comme Alain Damasio, je le connais depuis 15 ans, c'est un de mes meilleurs amis. Voilà, il y a des artistes aussi que je connais depuis un certain nombre d'années, et d'autres que je connaissais pas personnellement, comme Dominica, mais avec qui je rêvais de travailler. Et donc là, voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai contacté. Puis j'ai senti qu'il était super enthousiaste et voilà, donc c'est différents degrés d'amitié, mais aujourd'hui c'est vrai que j'ai la sensation, il s'est fait avec tellement de bienveillance l'album, tellement de gentillesse, ouais, de générosité, j'ai l'impression qu'on est tous copains.
Mais alors Flavien Berger, Yael Naïm, Camélia Jordana, Odezen, Giorgia, Dominique A et bien d'autres, ce sont quand même des artistes qui viennent d'horizons musicaux extrêmement différents. Comment avez-vous fait pour que la sauce prenne?
Ouais, mais ça c'est le truc dont je suis le plus fier et que j'ai trouvé le plus excitant quand je travaillais, parce que c'est vrai que je parlais à tous ces gens à peu près en même temps, c'est-à-dire j'avais Alain Damasio au téléphone et puis juste après j'écrivais un mail à Camélia Jordana et puis j'enchaînais, enfin donc eux ils travaillaient chacun sur leur morceau mais ils savaient pas exactement sur quel disque ils allaient se retrouver au final, d'ailleurs c'était une sacrée preuve de confiance de leur part. Et là, ils l'ont découvert tout récemment, presque à la sortie du disque, ce disque. Et voilà, Alain Damasio a bien résumé, enfin, en tout cas, m'a fait très plaisir en me disant, c'est fou, t'as réussi à tous nous unifier quelque chose comme ça, alors qu'on est tous très, très différents. C'est vrai, ils ont tous des parcours très différents.
Oui, c'est-à-dire que ce sont vos notes à vous qui ont fait une sorte de pont entre les univers des différents participants?
C'est possible, c'est probable, c'est peut-être le fil rouge, un peu, ma musique. Après, ils m'ont apporté énormément, donc ça va évidemment dans les deux sens. Ils ont emmené ma musique beaucoup plus loin. Moi, peut-être que, effectivement, j'ai fait cette espèce de toile, j'ai créé ce réseau, j'ai tissé, ouais, ce lien entre chaque artiste qui se connaissaient pas tous. On s'est tous retrouvés là au Théâtre du Châtelet pour une captation, donc ouais, on a pu faire connaissance finalement, mais c'est vrai que tout ça s'est fait à distance, donc c'était spécial.
Mais comment vous avez procédé pour attribuer à chacune et à chacun son titre? Parce qu'il y a des créations musicales originales, et puis il y a des musiques qui sont reprises ou adaptées de votre album précédent. Comment ça s'est passé?
Ben, ça dépend. Alors, pour certains artistes, les premiers que j'ai contactés, comme Jenny Bess, par exemple, ou Yael Naïm, je leur ai effectivement envoyé une quinzaine de morceaux en leur disant, est-ce qu'il y en a un qui te parle, hein, sur lesquels t'aimerais poser ta voix? Et voilà, Jenny Bess est revenue naturellement avec l'instrument Sophora Japonica de l'album Rooms of You, qu'elle a transformé en Et le jour commence avec ses jolies paroles. Et puis pareil pour Yael Naïm qui s'est posé sur Solastalgia. Pour d'autres artistes, j'avais une idée en tête très précise. Dominica, j'avais cet instru sur lequel j'entendais sa voix, j'imaginais sa voix. Je me disais, ça serait super beau d'avoir la voix de Dominica sur ce morceau-là. Donc je lui ai pas beaucoup donné de choix à lui, je lui ai proposé cet instru. Heureusement, elle lui parlait. Mais
et donc c'est toujours l'instru qui est le point de départ.
Oui, 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 oui.
Et parfois, vous avez dû modifier la composition, arranger la musique au mot ou à la voix de chaque artiste.
Oui, c'est ça. C'était une espèce de ping-pong. Ils m'envoyaient leur a cappella, leur voix comme ça, isolée de la musique. Et puis moi, à partir de là, je faisais des arrangements autour de la voix. J'avais envie qu'il y ait quand même une espèce de fusion. Là où c'est le plus flagrant, peut-être, c'est Yael Naïm sur Solastalgia, où elle fait des longues notes très très étirées comme ça qui se fondent avec mes nappes électroniques, et ça c'était un truc qu'on recherchait. Breathe in all the secrets.
You don't have to be someone else or pretend that you really don't care. Breathe out all the love. Let it fly away. It will always surround you. Leave and go back. It will find you.
Yael Naïm, à partir donc de la musique de ce Nostalgia, quel regard, ou plutôt quelle oreille est-ce que vous portez, Ron, sur sa voix?
La voix d'Yael Naïm? Waouh, la voix d'Yael Naïm, moi, pour moi, c'est marrant parce que c'est vrai qu'il y a certains de ces artistes qui sont sur ce disque. Je m'intéresse beaucoup à l'aspect littéraire. Bon, évidemment, Alain Damasio qui est écrivain, mais Dominica aussi. Yael Naïm, c'est plus quelque chose d'organique, ça devient quasiment une espèce d'instrument. Ben voilà, à la fin de ce morceau là, on entend cette voix qui s'étire et qui devient qui se mêle à mes synthétiseurs et qui ça devient moi ce mélange électronique organique m'intéresse beaucoup et
c'est un instrument comme un autre, la voix.
Alors moi un instrument que je sacralise un peu, la voix, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est indépassable, indétrônable. Enfin, je veux dire, moi, ma référence absolue, c'est la voix de Billie Holiday, par exemple. Ouais. Moi, c'est des voix. En fait, effectivement, c'est parfois quand je cherche à inventer des textures sonores avec mes machines, j'ai un peu ces références-là. Mes références sont des voix. Je me dis, il faudrait que j'arrive à faire pleurer mes machines, à les faire crier, à les faire chanter comme Billie Holiday.
Oui, donc les voix qui ont justement une texture, une aspérité, des imperfections, du relief, quoi.
Exactement. Les voix qui, ouais, je cherche tout sauf des voix lisses. C'est des voix effectivement qui racontent quelque chose avec, ça, c'est ça, l'aspérité, du relief et quelque chose, une palette super large entre la joie, la tristesse, qui raconte plein de choses juste avec une texture.
Est-ce que vous êtes un contemplatif, Ron?
Contemplatif, c'est possible, oui, c'est possible.
Un promeneur,
oui, j'aime bien marcher.
Oui, donc vous marchez sur la plage en Bretagne, puisque c'est là que vous vous êtes installé depuis quelques mois, pas très loin de Saint-Malo, composé à Paris, à Berlin ou à Cancale, c'est la même chose?
Non, c'est des expériences très différentes. Après, c'est vrai que je me suis installé en Bretagne avec. C'est étrange, moi, je suis un vrai Parisien. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. Bon, j'ai des origines bretonnes.
Oui,
je me sens très breton.
Breton.
Donc là, c'est, je savais que j'allais finir mes jours en Bretagne. Je pensais
juste. Pas si tôt.
Voilà, exactement. C'est vrai que je pensais que ce serait pour plus tard. Et donc j'avais cette petite angoisse de est-ce que je serais toujours aussi créatif en Bretagne. Je sais pas pourquoi. J'avais cette espèce de cliché. C'est trop calme, trop zen, trop cool là-bas. Moi, j'avais l'impression que j'avais besoin du rythme de la ville pour être en effervescence. C'était un peu comme mon système cardiaque. J'ai jamais été aussi créatif que là-bas parce que dès que j'ai un blocage, effectivement, je marche une demi-heure près de la mer et ça me nourrit, ça me remplit. Je rentre et ça, tout est débloqué. Je fais de la musique très facilement derrière.
Oui, je parlais de balade, je parlais de contemplation parce que parmi les voix remarquables de l'album, il y a celle de Dominique A qui vous invite à l'errance. On écoute, on en parle juste après.
À l'errance, aux charges des nuées, aux pas qui nous élèvent, aux plasmas rejetés, vue d'errance, au prix de la matière, l'adhérence, mais qu'en dire à la pierre? D'autres îles sur des flots peu causants vers la terre intranquille. Si tu te défiles, tiens-nous au courant. À l'errance,
marge des nuées, tout au bout des histoires, des mains tenues serrées, et puis des mains lâchées, et les plaintes sans nombre, et les noms poursuivis. Seconde après seconde, le temps d'une vie, tous les noms poursuivis, enchâssés dans un rêve où l'espoir se replie. Seconde après seconde, dans l'errance infinie, où jamais ne succombe l'amour.
Ah, qui fait partie des Amis de Rhône pour cet album Rhône and Friends que nous découvrons aujourd'hui dans VMDN sur RFI. Alors aucun doute, c'est du Rhône et c'est du Dominique A en même temps, c'est assez extraordinaire. C'est vrai qu'à l'écoute, on se dit que cette collaboration, c'était une évidence, non ?
Ah ben, moi, je l'admire tellement et j'aime tellement qu'il fallait que ça se fasse, cette collaboration, un jour.
Alors, album disponible sous le label Infine, album aérien, hein, c'est très clair, comme en témoigne d'ailleurs la pochette, hein, dessinée par Coco, qui était notre invité d'ailleurs il y a 10 jours dans cette émission. Une ronde d'amis dans un ciel azuré avec quelques nuages blancs amicaux, et au dos un halo de lumière blanche et un personnage. Alors, on ne sait pas si ce personnage est en chute libre, s'il est en apesanteur ou s'il est en train d'effectuer une acrobatie. Quelle est l'hypothèse qui correspond le mieux à ce que vous souhaitez, Ron ?
C'est vrai que j'aime beaucoup cette idée-là, qu'on ne sait pas si le personnage est en train de tomber ou de s'élever, au contraire. Toutes les interprétations sont possibles. Je préfère pas en parler trop, d'ailleurs, parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est que chacun y voit un peu ce qu'il veut sur ce beau dessin de Coco.
Ouais, et en apesanteur, il y a aussi... les lunettes, les petites lunettes rondes, hein, ça fait partie de votre identité, non pas sonore, mais visuelle. Le visuel, c'est aussi important que le son.
Oui, carrément. Ben, moi, c'est vrai que j'ai fait des études de cinéma avant de faire de la musique, et je me rêvais un peu réalisateur. Moi, je pensais faire des films, puis la musique a pris le dessus. Mais l'image a toujours été présente dans mon travail. J'adore l'étape des clips. Dès que j'ai fini un album, il y a toujours une série de clips qui vient derrière. J'adore les pochettes de disques, et le visuel, ouais, compte beaucoup pour moi.
Oui, votre compagne, en plus, est illustratrice. Hein, Lily Wood, quand vous composez, vous avez tout de suite des images dans la tête. Le son est tout de suite accompagné par le visuel.
Oui, alors c'est vraiment du domaine de l'abstraction. Hein. C'est pas des images très précises, mais c'est vrai que je fonctionne quand même par assimilation d'images. Je me fais des petits films, en fait. C'est tout simplement ça. Hein. Quand je fais une musique, j'ai des petites scénettes, mais ça peut être un personnage qui court en riant et en pleurant en même temps. Enfin, c'est des choses très abstraites, un peu comme un rêve plutôt. Hein. Il y a pas vraiment de narration, mais c'est plus des images, des sensations, des. Ouais.
La nuit venue. Je sais que je vais le soir danser de dos. Ma vie sans mots.
La nuit venue, Rhône est la voix de Camélia Jordana, une des actrices du film éponyme. La nuit venue, le premier long métrage de Frédéric Farrucci, dont vous avez composé la bande originale. Rhône, bonne pioche, puisque ça vous a permis quand même au passage de décrocher le César de la meilleure musique originale. C'est Alain Souchon qui vous a remis le trophée. On vous a senti extrêmement ému, extrêmement intimidé.
Bien sûr. C'était une énorme surprise. C'était inattendu pour moi. Comme vous le disiez, c'était un gros pari, parce que c'était quand Frédéric Farrucci, le réalisateur du film, est venu me contacter, je me demandais qui était ce bonhomme. Il avait jamais fait de film auparavant, c'était son premier long métrage, mais il avait un scénario génial et puis il en parlait super bien, et donc pari gagné avec ce César. Oui, c'est vrai que c'est un peu dingue, et évidemment très touché de recevoir ce prix des mains d'Alain Souchon que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Enfin, oui, non, c'était
bon, très... avec un petit peu de recul, ça fait quelques semaines à peine, mais ça vous apporte quoi, artistiquement parlant, d'avoir un César? Vous êtes encore plus bankable qu'avant?
Honnêtement, ça ouvre des portes dans le cinéma. En tout cas, je sens effectivement il se passe quelque chose. Il y a des propositions qui commencent à tomber, des choses comme ça. Je pense tout simplement que ça a fait connaître mon travail à des réalisateurs qui connaissaient peut-être pas, enfin qui savaient pas qui j'étais et peut-être qui s'y sont intéressés. En tout cas, je le sens. Il y a des propositions qui tombent. C'est super. Moi, j'ai super envie de travailler, de faire d'autres musiques de films. Donc.
Bon, comment vous avez travaillé avec le réalisateur, en amont, en parallèle, en aval du tournage? Parce que c'est pas la même chose d'écrire pour un film et d'écrire pour soi.
Ouais, non, c'est marrant, parce que quand il m'a contacté, il avait pas encore de financement. Il avait à peine trouvé des producteurs, donc.
Vous étiez sur le projet déjà, voilà. très au début. En fait,
moi, je lui ai dit, je suis
pas du tout arrivé en fin de course.
Non. Il a mis deux trois ans à se monter, ce projet. Donc moi, je lui ai dit, je suis super chaud, je te suis. Et puis un jour, ouais, c'est ça. Un jour, il m'a dit, ça y est, j'ai les financements, on tourne. Par contre, il va falloir aller très vite. On a 2 mois de tournage. Il faut que le film soit bouclé le mois d'après. Enfin, donc tout d'un coup, il y avait une espèce d'accélération. Il fallait aller très vite. Bon, on avait eu le temps quand même, heureusement. Moi, j'avais eu le temps d'y penser à ce film. J'avais pas posé d'idée. J'avais pas travaillé, parce que moi, mon plaisir quand je travaille sur un film, c'est de travailler sur l'image, vraiment. J'adore ce qui se passe quand on fait de la musique devant un écran et qu'il y a tout d'un coup une alchimie, quelque chose qui se passe. Donc j'ai attendu d'avoir... concrètement, il tournait le film, il m'envoyait les images qu'il avait tournées, donc avant même le montage, le soir même, il m'envoyait les images et je composais dessus. J'ai travaillé vraiment en parallèle au tournage, ça allait très très vite.
Donc il y a deux personnages principaux, il y a le chauffeur de taxi qui est joué par Gang Ho, il y a la passagère, le personnage de Camélia Jordana, la musique c'est le troisième personnage, c'est une sorte de pont, on y revient toujours, de lien, ouais. De go-between entre les deux.
C'est ça, hein. c'est ce qui m'a fait aimer ce projet aussi. C'est Frédéric Farrucci en parlait comme ça, il disait la musique, ce sera le troisième personnage de ce film, parce qu'effectivement, ce sont deux personnages qui ont beaucoup de mal à communiquer. Ouais. Donc il faut arriver à faire le lien entre eux, à combler les silences, à dire plein de choses sans dialogue. Et donc pour un musicien, c'est génial de pouvoir travailler sur un film comme ça.
Donc c'est plus que de l'atmosphère.
Oui.
Mais c'est aussi de l'atmosphère.
C'est vrai qu'il y a un côté road movie aussi. Il y a des longues virées sur le périphérique où là, il y a un côté très atmosphérique. Mais il y a aussi de la tension à mettre entre les personnages, plein de choses à dire, à raconter. Donc il y avait plein de choses à faire avec cette musique de film.
Et le jour commence, tu n'as plus l'envie d'aller faire la fête, d'aller choper des mecs. Tout ce qu'il faut voir, tout ce qu'il faut boire, n'a plus d'importance, c'est pourri d'avance. Tu veux leur dire tout ça? Et le jour immense, et le jour commence, et le jour immense, et le jour commence, et le jour immense, et toi tu finis tout.
fois de romance.
Et le jour commence avec sur ce titre la voix de Jenny Deff, la chanteuse du groupe Savages. Jenny Deff qui figure au casting du prochain film de Jacques Audiard, Les Olympiades. Vous en avez entendu un petit peu parler, Ron.
Ah, vous avez des infos.
Ah bah oui, quand même, je lis la presse, hein, vous savez, rien d'exceptionnel, parce que bon, vous êtes en train de travailler sur la bande originale, encore une musique de film, vous voyez, du prochain Jacques Audiard.
Ouais.
Wow.
Ah, c'est génial, c'est un des trois réalisateurs avec qui je rêvais de travailler, vraiment. Donc,
quels sont les deux autres?
Ah, je peux pas, si je l'ai dit, je vais fermer mon. Non, je peux dire qu'il y a Michel Gondry aussi, et puis le troisième, je...
Bon, le troisième, on laissera le mystère, mais bon, tous nos voeux vous accompagnent. Le cinéma, on l'a compris, vous a toujours inspiré. Quel cinéma, d'ailleurs? Parce qu'entre Audiard et Gondry, il y a une petite marge quand même.
Oui, et puis c'est encore bien plus vaste que ça, parce que j'ai eu ma période Nouvelle Vague, j'étais fasciné par Godard, Truffaut, tout ça, et puis en même temps, je suis très bon public, des gros blockbusters américains, enfin je suis assez bon public en fait, hein. Il y a plein de genres de cinéma que j'aime, donc j'aime tout, en fait je crois que c'est aussi justement ce que m'a apporté la fac de cinéma quand j'étais étudiant, c'est que je me souviens j'allais tout le temps à la cinémathèque, je voyais 3, 4, 5 films par jour, et c'était par thème, c'était les semaines thématiques, donc cinéma italien, cinéma russe des années 20, cinéma, enfin bon, et tout m'intéressait, et il y a plein de choses à prendre dans tous les styles, dans tous les pays, dans tous les genres.
Bon, fac de cinéma, c'était la Sorbonne Nouvelle. Pourquoi vous avez changé de voix?
Simplement parce que je faisais de la musique, mais comme une espèce de hobby pour le plaisir. Je faisais écouter ça à personne. Et puis, il se trouve que le label Infiné a entendu ma musique et m'a proposé de sortir un disque. Je pensais que c'était une grosse blague. J'ai fait ça. Et puis, il y a eu un concert derrière. Et puis, le concert a plutôt bien marché. J'ai fait un deuxième disque. Enfin, je me suis fait prendre dans une espèce de spirale et le cinéma s'est éloigné comme ça, presque malgré moi. Mais en fait, je suis ravi. Enfin, je m'attendais juste pas à ce que la musique devienne mon métier. Mais c'est génial.
Et c'est le cinéma qui vous a permis de rencontrer Alain Damasio, parce que j'ai vu que vous aviez voulu adapter La Zone du Dehors, hein, ça a un peu avorté,
oui. Oui,
mais ça vous a au moins permis de le rencontrer.
Exactement, ça m'a permis de le rencontrer. C'était un projet fou. On était tout jeune avec un copain, on voulait adapter ce livre. On l'a contacté. Et lui, il a été assez fou pour croire en nous, il nous a fait confiance. Mais nous, voilà, on était vraiment deux petits jeunes de la fac de cinéma, on savait même pas comment on faisait un film, surtout c'était financièrement qu'on était un peu perdus.
Ouais.
On a essayé de bricoler quelque chose par nous-mêmes. L'idée, c'était d'en faire un film d'animation, d'un pavé comme La Zone du Dehors, un film génial, un livre génial de science-fiction. On n'a pas réussi à aller au bout de ce projet, mais effectivement, d'ailleurs, le premier morceau que j'ai sorti, Bora, est un morceau sur lequel on entend la voix d'Alain, parce que c'était une époque où j'étais complètement baigné par ce personnage, cet écrivain, ses livres, et j'ai utilisé l'enregistrement d'un journal intime qui tenait sur un dictaphone, alors qu'il écrivait La Horde du Contrevent, son deuxième roman qui l'a fait vraiment connaître. Et voilà.
Et il est aussi sur cet album.
Et il est sur cet album, ouais.
On dormait à la belle étoile, sous un ciel nu, tout relâché. Glisser dans tes bras, sentir la brume autour, la forêt fraîche, et aimer ça.
Se lever sous le duvet, se blottir l'un contre l'autre, comme des chats ou des marmottes, comme des chiots sous une motte. Ce moment où l'on n'a plus vraiment de corps à soi.
Un tartinet érotique, on l'a compris, avec les voix de Mood et d'Alain Damasio. Qu'est-ce qui vous intéresse, au-delà de votre amitié personnelle, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'univers d'Alain Damasio?
Alain, c'est... c'est quelqu'un qui, personnellement, m'a permis de... qui m'a ouvert la philosophie, déjà. Il m'a fait connaître Deleuze, il m'a fait connaître Nietzsche, il en parle très très bien. C'est un très joli... très vilain mot, mais il y a une manière de vulgariser la philosophie, de me la faire comprendre, de me l'expliquer qui est génial. Et aujourd'hui encore, hein, quand je le croise, j'apprends plein de choses à ses côtés. Et puis il est super inspirant, il a une niaque, une énergie en fait. Ça, tous ceux qui le connaissent vous le diront, qui donne envie de faire des choses en fait. On le voit, moi à chaque fois que je le vois, derrière il y a 2-3 morceaux qui jaillissent, 2-3 morceaux de musique. Parce qu'il est super inspirant et qu'il est très généreux et qui, je sais pas, il y a quelque chose comme ça de très solaire en lui qui donne envie de faire des choses, aussi de lutter, de se révolter, parce qu'il a évidemment une dimension politique très forte. Donc c'est quelqu'un de très intéressant. Ouais.
Oui. D'ailleurs, dans votre album précédent, Room with the View, il y avait une vraie dimension écolo, une vraie dimension engagée contre le consumérisme notamment. Il y avait un titre qui s'appelait Nouveau Monde, ouais, qui collait d'ailleurs assez bien avec l'air du temps du premier confinement. On en parlait beaucoup à l'époque de ce Nouveau Monde, au tout début de la pandémie, hein, quand on voyait, y compris sur Paris, des oiseaux sur l'asphalte, des voies sur berge. Maintenant, on en parle beaucoup moins. On a surtout envie que tout redevienne comme avant. On a un petit peu oublié le Nouveau Monde et on regrette un petit peu l'ancien. Est-ce qu'on a loupé une occasion là ?
Bah, moi, je pense que c'est pas fini. Hein. Je veux dire, je pense qu'on peut toujours rêver, espérer et même se battre pour un nouveau monde. C'est vrai qu'il y a eu une espèce de... Dans le premier confinement, je pense qu'on était tous tellement reclus chez nous que ça avait pris une dimension très forte, cette idée d'un nouveau monde. Vous voyez, tout de même, on était dans un film de science-fiction, on voyait les images d'animaux dans une ville fantôme. On était dans un livre d'Alain Damasio, en fait. Donc, c'est vrai que ce nouveau monde-là, il avait... Moi, quand j'avais fait ce morceau, c'était avant l'arrivée du virus, et tout d'un coup, ça résonnait vraiment, comme le nom de l'album, Room With You, d'ailleurs, pendant le confinement, tout ça prenait une résonance un peu particulière. Mais là, aujourd'hui, je pense pas que c'est derrière nous, et je pense qu'il faut continuer à espérer un monde nouveau. Alors évidemment, ça peut paraître... Ce qu'il y a, c'est que je pense surtout qu'à un moment donné, c'était permis d'y croire et d'en parler. Et on revient un peu maintenant dans cette idée que c'est un peu ridicule. On se moque un peu de cette idée-là, j'ai l'impression. Et il y a eu ce petit laps de temps où moi je trouve que c'était super, surtout pour une jeunesse qui est quand même dans une situation très très difficile. Enfin, c'est super de pouvoir qu'on se moque pas d'eux. Si on voilà, il y a vraiment des choses à réinventer, à inventer. Et donc évidemment qu'il faut continuer d'y croire.
Impatient de reprendre la scène.
Ouais, évidemment, j'ai hâte de reprendre la scène. Ouais, ça me manque beaucoup.
Vous avez déjà des idées de mise en scène visuelle, notamment pour
déjà
sur l'image.
Ouais, déjà, je vais retrouver les danseurs dès que possible du Ballet National de Marseille. Ce spectacle, il a quand même été interrompu un peu brutalement. On devait faire une tournée. Okay. Donc voilà, dès que c'est possible, on va se retrouver sur scène et on va reprendre ce spectacle là où on l'avait laissé. Et on va l'emmener peut-être plus loin, même on va le retravailler. Des choses se sont passées entre temps, donc c'est génial. Ça sera une occasion de le remodeler, de l'emmener ailleurs, de l'emmener plus loin peut-être.
Et en attendant, Arte Concert diffusera le 13 avril à 21h le live de ce nouvel album enregistré au Théâtre du Châtelet, une captation qui a été à la fois une performance artistique et technique en période de Covid et dont RFI Labo a été d'ailleurs un des partenaires pour toute la partie sonore. On va écouter les explications de Xavier Gibert, responsable de l'unité de production RFI Labo. Il est au micro de Baptiste Antoine.
RFI Labo, c'est une unité de production qui a pour but de travailler sur le son 3D. Ce qu'on entend, nous, par son 3D, c'est son binaural, donc c'est-à-dire que c'est une technique qui permet de retrouver avec un casque une écoute proche d'une écoute naturelle.
Comment s'est passée la collaboration avec Rhône et les artistes invités sur ce concert ?
Ça s'est bien passé dans le sens où finalement l'album existe déjà. C'est-à-dire que les pistes de Rhône sont déjà celles qui sont sur le disque. Au Châtelet, on a fait une captation de quelques instruments et surtout de la voix des artistes dans le lieu. Et tout le travail, donc là, de captation, on va dire assez classique, c'est-à-dire qu'on enregistre le maximum de sources possibles sur des machines multipistes. Et puis c'est dans un deuxième temps que se fait la création binaurale, où on récupère l'ensemble des pistes de Rhône, on positionne dans l'espace et on intègre dedans les prises de son des voix des artistes. Donc ça s'est très très bien passé, ça c'était une expérience très courte dans le temps, parce qu'elle est tout tournée en deux jours, et puis c'est une forme de performance, puisque en fait les techniques de prise de vue qui ont été choisies sont quasiment uniques, c'est-à-dire qu'à chaque fois il n'y a qu'une seule caméra qui tournait, et donc c'est la dernière prise en plan rapproché qui compte. Et donc on était tous dans cette dynamique d'obligation de résultat, comme si c'était un live en fait.
Donc pour écouter ce concert de Rhône en binaural, de quel matériel avons-nous besoin ?
un casque normal, c'est votre casque. Le format en tant que tel n'est pas différent, il y a deux canaux. Ce qui est différent, c'est que on va pouvoir créer un hologramme sonore. Et pour ceux qui ont déjà testé l'image en 3D, vous souvenez qu'il faut simplement contrôler ce que voit l'œil gauche par rapport à l'œil droit. Et ben dans le son binaural, c'est pareil. C'est pour ça que ça s'écoute au casque. C'est-à-dire qu'on va séparer les deux canaux de l'oreille gauche et de l'oreille droite, et on va pouvoir, dans la musique, avoir une spatialisation. Ça apporte une expérience beaucoup plus, on va dire, sensitive et charnelle. On va être proche de ce que nous, en tant que technicien, on a entendu en étant en Châtelet. Mais attention, nous, notre position, elle est que le son binaural ne remplace rien. C'est-à-dire que la stéréo a toujours son mode de vie quand il est dans des haut-parleurs. Les enceintes en sonorisation et en concert sont toutes les mêmes. Et alors qu'il est, la monophonie existe toujours, puisque les gens actuellement là nous écoutent en mono.
Voilà, Xavier Gibert avec Baptiste Antoine. L'enregistrement donc a déjà eu lieu. Dans quelle mesure, Ron, l'innovation technologique est la matrice de la création ?
Oh ben, pour un musicien électronique comme moi, parce que je suis entouré de machines, mais mon principal instrument de musique, c'est un ordinateur. Et effectivement, je suis toujours à l'affût des nouveaux plugins, des nouvelles machines.
L'idée, c'est d'avoir un coup d'avance.
Non, c'est plus que ça. Moi, enfin, en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que généralement, un nouvel outil, tout d'un coup, ouvre un nouveau champ des possibles, et donc du coup, c'est simplement très inspirant. Tout d'un coup, il y a plein de morceaux qui jaillissent derrière parce que il y a une nouvelle manière de travailler, des nouvelles sonorités qui apparaissent et tout ça. Donc ça me nourrit vraiment dans ma créativité, en fait, simplement.
Bon, l'enregistrement donc a déjà eu lieu, je le disais. Rendez-vous donc le 13 avril à 21h sur Arte Concert avec tous vos amis. Ils étaient tous là ?
Presque tous. Odza n'a pas pu venir. On se retrouvera ailleurs, mais oui, ils étaient tous là.
Voilà. Et puis il y a deux petits nouveaux, je crois, aussi dans la bande.
Et en plus, oui. Dire, ouais. Ah oui. Bon, on peut dire oui que François-Marie est venu nous faire un petit coucou.
Et Vanessa Wagner.
Et Vanessa Wagner, ben oui, bien sûr, pardon, Vanessa Wagner, ben alors qui a repris mon morceau Motion, elle l'a réinterprété au piano, c'est sublime. Ben d'ailleurs, c'est le teaser qui est déjà en ligne sur internet de cette captation, et ouais, je vous invite à l'écouter, c'est assez bluffant en son binaural, justement.
Merci beaucoup, Ron. L'album Ron and Friends chez Infine. On se quitte avec Faro et Malibu. Direction Cuba, à présent, dans VMDN Cuba et sa capitale, La Havane, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses 500 ans d'histoire et son architecture coloniale. Mais La Havane, c'est aussi une ville qui tombe littéralement en ruine. Faute de moyens, l'État peine à protéger son patrimoine. Alors le bureau de l'historien de la ville, chargé de la rénovation de la vieille Havane, cherche tant bien que mal des solutions, parmi lesquelles une école-atelier où les élèves se forment au métier de la restauration, tout en aidant à la préservation du patrimoine. Reportage pour VMDN de Domitille Piron.
Un petit groupe d'élèves apprend les techniques de peinture murale dans ce qui semble être la cuisine d'une vieille bâtisse coloniale. Melissa Calzadilla, 24 ans, porte un bleu de travail. Elle est en deuxième année à l'école-atelier du bureau de l'historien de la ville.
J'aime l'idée de protéger l'esthétique de la ville, l'embellir, la ranger et la restaurer pour qu'elle ne se détériore pas.
En plein cœur de la vieille Havane, l'école qui accueille une centaine d'élèves est en fait une ancienne maison bourgeoise de style colonial, abandonnée depuis des décennies.
Et puis, ce que vous voyez là, ce sont les étudiants qui l'ont fabriqué. C'est un pont qui relie les deux bâtiments.
Dans le deuxième bâtiment, il n'y a plus que les murs de pierre, de grandes portes en bois, un escalier et un toit terrasse. Notre guide est l'ingénieur et professeur Pedro Rodriguez Sanchez.
Avant, nous étions au couvent de Saint-François qui était complètement détruit. C'était vraiment en mauvais état. Ils l'ont restauré. Puis l'école a bougé au coin de la rue, au couvent des Sœurs, qui a été rénové aussi. Et maintenant, nous sommes ici. Mais nous n'avons pas encore beaucoup avancé. C'est un travail qui est utile et très économique.
Après 6 mois de théorie, les élèves entament directement la pratique et touchent un petit salaire durant leurs 2 années de formation dans cette école surnommée École Escargot, qui avance avec sa maison sur son dos en fonction des besoins de restauration de la ville. À la Vieille Havane, le travail de restauration est titanesque. L'école avance donc avec ses petits moyens tout en formant de futurs ouvriers d'excellence aux métiers de la sculpture, la forge, la peinture, la charpenterie, la plomberie, la maçonnerie et l'ébénisterie avec le professeur Ramon Arias López.
La restauration, c'est très coûteux et il ne faut pas seulement de la main-d'œuvre qualifiée, il faut des investissements. Pour un pays pauvre comme Cuba, avec peu de ressources, c'est compliqué. Nous faisons de la restauration de meubles anciens. Ça peut être des meubles du XVIe siècle jusqu'au XXe. Il s'agit de meubles qui sont dans les musées et nous leur redonnons vie. Oui, il y a beaucoup de travail. Et puis les élèves vont lentement, parce qu'ils apprennent, et comme les meubles font partie du patrimoine, il faut y faire attention. Et les élèves doivent apprendre sans abîmer le patrimoine. Ici, nous utilisons les techniques traditionnelles.
Des techniques et des métiers qui avaient presque disparu à Cuba, comme l'explique le directeur de l'école, Juan Carlos Botello.
La restauration du patrimoine en Cuba. La restauration du patrimoine à Cuba commence dans les années 80. Et à cette époque, déjà, les ouvriers nés au début du siècle qui avaient hérité d'un office étaient très peu nombreux. Donc l'école a dû sauver les connaissances de ces métiers. Cela s'explique aussi parce qu'à Cuba, la construction a pris un tournant industriel et également par l'étatisation des ateliers. Le fait que les ouvriers ne puissent plus travailler à leur compte dans leur propre atelier a fait que l'héritage de la transmission d'un maître à l'autre s'est perdu. Cela se faisait dans les petits ateliers, mais pas dans ces grandes structures et institutions qui se sont créées.
Restaurer les métiers du bâtiment et le patrimoine de la Havane, c'est donc la mission de cette école, basée sur le principe d'apprendre en faisant, afin d'éviter de gaspiller du matériel et des ressources si précieuses dans un pays en crise.
Reportage de Domitille Piron à la Havane, une pause et le journal sur RFI. On se retrouve demain avec une bande dessinée signée Sandrine Martin, Chez toi, qui raconte le destin de 2 femmes liées par le destin des migrants réfugiés en Grèce, album paru chez Casterman, et vous m'en direz des nouvelles.
RFI, la sélection du mois.